cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec. Le FM 93 vous présente Tu aimes le midi. Actualité, entrevue, débat. Tu aimes le midi.
Avec Éric Duhem.
Bon mercredi à tous. Un autre mercredi ensoleillé extraordinaire. Quelle semaine nous avons. Il fait encore chaud, très, très chaud. Mais aujourd'hui, on se plaindra pas, s'il vous plaît. Il faisait tellement chaud hier soir, hier après-midi. J'ai même pas le temps d'aller courir. Je vous aime ma petite milieu, là, garde. Là, on fait juste marcher, puis déjà, tu baves, puis t'as chaud. Là. On va attendre. J'ai bien fait, je suis allé matin, puis honnêtement, là, puis je sais pas pour vous si vous avez bien dormi, mais c'était vraiment pas si pire. Il faisait 18 degrés quand je suis allé courir à 6 heures le matin. Puis c'était fort agréable. Moi, des journées à 30, j'ai pas de problème. En autant que ça redescende un peu la nuit, puis que c'est pas trop humide, ça va bien. Je sais pas si vous, vous avez bien dormi, si c'était un peu collant ou pas. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi juste avec un drap. La doudou, là, c'est sûr qu'à 30 degrés, elle peut prendre de bord. Jonathan Bernard, ça mène en studio. Salut, Jonathan.
Salut, Eric.
T'as-tu dormi avec une doudou, toi, cette nuit?
J'ai un édredon, mais j'ai pas de doudou à proprement parler.
Mais t'as-tu gardé ton édredon ou t'as juste gardé le drap?
Je m'en suis pas rendu compte.
Ou t'as dormi
hier, j'ai eu une bonne journée, je te dirais. Fait que je me suis même pas rendu compte.
Ok. Tu dors-tu en costume d'abat?
Non. Ok, tu rentres un peu trop dans les détails. Ça va aller.
Non, moi, je porte pas de. Non, mais moi, je garde mes sous-vêtements, mais je dors. Quand il fait vraiment chaud, même j'enlève. Des fois, le drap, on a l'impression que c'est chaud puis ça colle. Ça arrive que je dors avec vraiment rien. Mais on dirait que vers 3-4 heures du matin, il suffit qu'il y ait une petite affaire de vent qui se lève ou une petite affaire de température qui descende. Puis là, on a le frisson, puis on cherche la couverte avec nos pieds pour essayer de la ramener parce que il fait frette, c'est ça. Fait qu'on se réchauffe comme on peut, comme on veut. Donc, mais c'était pas pour ça qu'on t'accueille ce midi. C'était
non,
pas pour te parler.
Moi, j'espère.
Oui, Jonathan, on peut parler de ça, c'est des choses de la vie, là. C'est important comment on dort, si on utilise ou non un édredon ou
ben
si
oui,
on utilise
ben oui,
une doudou.
Je sais, mais regarde ma vie.
Tes enfants,
personne...
ils ont des doudous comme les miennes, si je comprends bien, là.
Oui, c'est ça.
OK, non, tu t'amènes parce qu'il y a un rapport, plus sérieusement, un rapport des militaires qui sont allés en CHSLD. On vous a parlé hier du rapport qui était assez accablant sur ce qui s'est produit dans les CHSLD, mais du côté de nos voisins à l'ouest en Ontario. Aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, le gouvernement a rendu public le rapport des militaires, mais du côté du Québec. Puis finalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat là-dedans. Là.
Ben, si on parle en Ontario d'un rapport accablant, je vous dirais que celui au Québec n'a rien d'accablant. On illustre, du moins, on met en relief trois défis de taille. C'est comme ça que l'on indique ça dans le rapport d'une soixantaine de pages qui est signé par le brigadier général F.G. Carpentier. Je vous dirais qu'au niveau là du rapport à proprement parler, ça tient sur cinq pages.
Cinq pages?
Les autres, ce sont des annexes. Et là, on parle de la situation dans les 25 CHSLD où les quelques 1350 militaires sont présents. En fait, il y en a 1350 qui sont affectés à l'opération qui se déroule actuellement au Québec, mais il y en a 1050 qui œuvrent directement dans les 25 CHSLD. Ce que l'on dit, c'est que ça s'est fait, qu'il y a eu un travail qui s'est fait avec les autorités de chacun de ces CHSLD-là, que ça s'est fait en partenariat et en collaboration, l'élaboration de ce rapport. Donc, ce que l'on dit, c'est que ça favorise une compréhension commune de l'environnement opérationnel dans lequel nous collaborons avec nos partenaires provinciaux. Ce que l'on dit, c'est que la présence des soldats a un impact au plan régional car ça permet aux CIUS et aux CIS de rediriger des ressources dans d'autres CHSLD ou d'autres centres d'hébergement où on a besoin de main-d'œuvre. Donc, ça a une espèce d'effet domino positif, la présence des militaires dans les CHSLD. À propos des trois défis là, de taille qui ont été identifiés, je vous dirais, on tombe pas des nues. Première des choses, établissement et gestion des zones, fameuses...
Zone froide, zone chaude, là. Pas passer d'une à l'autre, surtout pas de la zone chaude à la zone froide.
Et les zones tièdes également, donc il y a attrait à tout ça. Il y a aussi au niveau des bonnes pratiques du port de l'équipement individuel, où là on dit que c'est un problème qui peut être exacerbé par un roulement élevé du personnel et une surveillance inadaptée des zones.
Okay.
et que le travail des militaires aide parce qu'ils servent en quelque sorte d'exemple. Ça, ça aurait peut-être pu être réglé parce que là, il y a des gens qui ne sont pas du domaine de la santé qui ont décidé d'aller prêter main forte dans les CHSLD, donc ne connaissent pas nécessairement les bonnes pratiques.
C'est normal. Est-ce plus que faire entrer de monde qui sont nouveaux, moins ils vont connaître les règlements et les façons de faire? Là.
Je ne le sais pas, mais est-ce que la santé publique ou le ministère de la Santé a produit peut-être une capsule vidéo qui aurait pu être diffusée ou qui aurait pu être envoyée aux gens qui allaient prêter main forte dans les CHSLD? Ça aurait peut-être permis de régler cette problématique-là.
Bonne question.
Sinon, le troisième défi dont on parle dans ça, c'est la dotation du personnel. Ça non plus, on n'est pas tellement surpris. Le fait qu'il manque de personnel et comment ça fonctionne.
À tous les jours, le premier ministre Legault, ou à peu près, nous le rappelle en conférence de presse. Les chiffres varient, mais c'est entre 5 et 10 000, dépendamment de quelle journée vous écoutez. Mais le fait qu'il manque de monde, il manque de bras, c'est clair que ça, c'est pas une nouvelle. On le savait déjà, on aurait pu l'écrire avant même que le rapport sorte.
Ce que l'on dit, c'est que selon nos informations, le besoin criant des CHSLD est au niveau du personnel avec formation médicale. Et on souligne...
Là, on parle de quoi? Des infirmières? C'est quoi une formation médicale? C'est pas des médecins, là?
Ben, qu'il manquait de personnel avec des formations médicales.
Ça, c'est un médecin ou c'est une infirmière?
C'est pas clair. C'est pas clair, sauf que ce que l'on comprend, c'est qu'il en manquait lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux.
C'était pas juste des préposés aux bénéficiaires puis des proches aidants, là.
Mais en même temps, toute cette situation-là a été exacerbée par la contamination des gens, du personnel soignant. Donc, vous l'aurez compris. Donc, c'est un peu ce que l'on dresse comme portrait. Il y a aussi un élément important qui est à mentionner. Il est à noter, et je cite, que plusieurs de nos membres ont été témoins et vécu des situations exceptionnellement difficiles dans les CHSLD. Par conséquent, nous devons collectivement enclencher les mécanismes nécessaires pour favoriser le maintien de la bonne santé mentale de la force. Donc, ce que l'on dit, c'est que les gens...
C'est la santé
mentale. Ben, c'est ça. Autant les militaires que les gens qui travaillent au quotidien dans les CHSLD ou même ceux et celles qui sont allés prêter main forte vont peut-être avoir des séquelles de tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu.
Ça laisse présager que c'était pas beau, là.
Ben, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas d'histoire, comme par exemple en Ontario, où on parle d'insalubrité, des cathéters réutilisés, des médicaments périmés. À la lumière de ce que j'ai été en mesure de lire, il n'y a rien de tout ça là-dedans, fort heureusement.
Je pense que le gouvernement Legault va être content de lire ce rapport-là ce matin. C'est pour ça peut-être qu'ils l'ont rendu public. Merci beaucoup, Jonathan. Si le gouvernement Legault est content, je vous dis qu'au sud de nos frontières, le chef d'État, lui, ne l'est pas. Donald Trump est en guerre présentement contre Twitter. Il est parti hier sur une montée de lait contre le bulletin de vote par la poste. Parce que là, à cause de la COVID, on parle beaucoup de est-ce qu'il pourrait y avoir des élections qui se font par la poste. Le président américain est totalement contre cette possibilité-là parce qu'il considère que ça pourrait être frauduleux. Et je vais vous lire ce qu'il a envoyé hier. Il a dit « There is no way, en parenthèse, zero, that mail-in ballots will be anything less than substantially fraudulent. » Donc, je vous traduis, là, il n'y a aucun moyen, zéro, là, que c'est un bulletin de vote par la poste sera rien d'autre qu'une fraude substantielle importante. Mailboxes will be robbed, les boîtes aux lettres vont être volées, les bulletins vont être fraudés et même il va y avoir des impressions frauduleuses et signées illégalement. Le gouverneur de la Californie a envoyé des bulletins à des millions de personnes, à n'importe qui vit dans l'État, peu importe qui ils sont et comment ils se sont rendus là. Tout le monde va en avoir. Là. Autrement dit, il est en train de dire aussi que les immigrants illégaux, là, les Mexicains vont en recevoir. That will be followed. Ça va être suivi par des professionnels qui vont nous dire à ces personnes-là, plusieurs qui n'ont jamais voté avant, comment et pour qui voter. Ce sera une élection fraudée. Là. Donc, il dit no way. Il n'y en est pas question. Et Twitter, en dessous de ce message-là, le censure d'une certaine façon parce qu'il marque un point d'exclamation en voulant dire « Informez-vous, il y a un problème ici. Là. Get the facts about mail-in ballots. Voici les faits à propos d'un bulletin de vote par la poste. » Et là, ils attaquent Donald Trump parce que quand vous allez là-dessus, là, on vous vante les mérites d'un bulletin de vote par la poste. Puis moi, je ne suis pas pour ou contre un bulletin de vote. Là. Je ne vais pas faire un débat là-dessus aujourd'hui. Là. mais je commence à trouver que c'est fou raide. Puis la même chose s'est produite, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, il y a des gens qui ont publié un tableau avec différents drapeaux des différents pays, puis le pourcentage de gens qui ont survécu à la COVID. Puis évidemment, c'est très, très élevé, là, c'est des 99,7%, 99,637%, puis en fonction du pays, puis il y a tout un ordre en fonction des pays où les gens ont survécu. Et là, en bas, là, ça m'a marqué, j'avais jamais vu ça avant, que ça peut contenir des fausses nouvelles et qu'on m'invite à lire quelque chose d'autre, qui lui, évidemment, dit que c'est un pourcentage beaucoup plus élevé. Puis, je veux juste vous dire que c'est extraordinairement dangereux de donner ce pouvoir-là à Facebook et à Twitter. Moi, ça me fait peur. Je vous donne un exemple bien concret, là. Est-ce qu'on va dire que le docteur Arruda, quand il nous disait que porter des masques, là, c'était une fausse sécurité puis ça pouvait être pire que de ne pas en porter, est-ce qu'on va dire que c'était frauduleux puis on va commencer à censurer tous les articles qui rapportent ses propos qu'il a tenus pendant 3 semaines, 1 mois? Est-ce que tous les gens qui nous ont dit que c'était entre 3 et 7% les gens qui allaient mourir de la COVID s'ils l'attrapaient, est-ce qu'on va commencer à dire que c'est des fabricants de fake news puis on va commencer à les censurer? Donald Trump, dans son tweet, il ne dit pas la vérité, il ne dit pas un mensonge, il donne son opinion. Il croit qu'une élection par bulletin de vote, par la poste, c'est frauduleux, que ça va conduire à des résultats fraudés. Il a le droit de penser ça. Et je ne suis pas nécessairement en désaccord avec lui là-dessus. Moi aussi, je pense que si on a le choix entre avoir un bulletin de vote, que la personne est obligée de se présenter et elle met son bulletin de vote dans la boîte, il y a beaucoup plus de chances que ça soit la vraie personne que par la poste. Puis dans le même esprit, là, j'ai toujours été en faveur, moi, que les assistés sociaux aillent chercher leur chèque à tous les mois au gouvernement pour qu'on lui voie la face. Pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui en collecte 3. Je trouve que on s'en va sur un terrain glissant. Puis là, aujourd'hui, là, c'est tellement dangereux que là, Trump a décidé d'attaquer Twitter. Il a écrit, et je cite, « Twitter is now interfering in the 2020 presidential election. » Donc, Twitter est en train d'interférer dans l'élection présidentielle de 2020. They are saying my statement on mail-in box. Ils disent que ma déclaration sur les bulletins de vote par la poste, which will lead to massive corruption and fraud, qui va mener à beaucoup de corruption, de fraude, est incorrect, basée sur des faits par des fake news comme CNN et The Amazon Washington Post. OK, fait que là, ils attaquent des médias, évidemment. C'est comme si nous autres, on dirait Radio-Canada qui dit toujours la vérité, mais Radio-Canada aussi nous a dit à un moment donné que le pourcentage de décès de la COVID était beaucoup plus élevé que ce qu'il est en réalité, hein? Et là, il dit « Twitter is completely stifling free speech », donc ils attaquent la liberté d'expression, « and I, as president, will not allow it to happen », et comme président des États-Unis, je ne leur permettrai pas de faire ça. Il continue, il dit « Les républicains croient que les plateformes des médias sociaux étouffent les voix conservatrices. Nous allons réglementer ou les fermer avant qu'ils puissent faire ça. On a vu qu'est-ce qu'il y a. We saw what they attempted to do and failed in 2016. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais ont échoué en 2016. Là, il parle évidemment de la campagne qu'il a menée contre Hillary Clinton. We can't let a more sophisticated version of that happen again. On peut pas permettre à une version encore plus sophistiquée que celle-là de se reproduire à nouveau. Just like we can't let large-scale mail-in box mail-in ballots take root in our country, comme on ne peut pas non plus permettre des bulletins de vote par la poste là, de s'établir dans notre pays. It would be a free-for-all on cheating. Ça va être un free-for-all, le bordel pour la tricherie, la fraude, le vol. Tous ceux qui vont voler vont gagner, incluant les médias sociaux. Nettoyez-vous maintenant. Donc, c'est une menace à mots peu couverts qu'il fait là-dessus. Puis moi, là, je pense que vous êtes celui ou celle qui sait le mieux ce que vous voulez accepter puis vous ne voulez pas accepter. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, des bulletins de vote par la poste? Est-ce que la fraude vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'une élection par bulletin de vote est plus frauduleuse que... par bulletin de vote par la poste est plus frauduleuse que des bulletins de vote dans une urne où les gens se sont déplacés? Moi, je pense que oui. Puis, écoute, en fait, je pense pas, je suis sûr. les probabilités de voler puis de tricher sont exponentiellement plus élevées. C'est pas compliqué, là. Écoutez, j'ai tout vu, moi, des élections, là. J'en ai fait une peine d'autre, là. Du monde qui essaie de revenir deux ou trois fois dans l'école, je n'ai vu. Avec des faux noms pis avec une fausse carte. Mais quand tu y reconnais la face, puis tu le challenges, puis tu l'as devant toi, c'est une affaire. Quand ça se passe par la poste, c'est un autre paire de manches. J'ai pas confiance en ce système-là. Puis je pense qu'on a le droit encore, autant aux États-Unis qu'au Canada, que sur tous les réseaux sociaux, d'exprimer nos opinions. Parlant d'opinions qui font pas l'affaire de tout le monde, je vais vous parler maintenant de Georges Larac. Vous connaissez l'ancien joueur des Canadiens, Goon Sebar, qui s'est reconverti dans les médias. On le voit souvent. Il a fait toutes sortes d'affaires. Il a même joué dans des films. Il a tout fait, Georges Larac. Et on sait que Georges Larac, c'est un vegan. Puis là, hier, il a fait une sortie. Parce qu'il a été... D'après moi, je pense qu'au Québec, là, dites-moi si je me trompe, là, mais c'est une des premières personnalités très connues là, qu'on a appris qu'il y avait la COVID. En tout cas, moi, je pense que c'est le premier dont j'ai entendu parler qui a eu la COVID-19. À l'époque, on disait juste coronavirus, on ne disait pas encore COVID-19. Mais hier, il a fait une sortie avec Richard Martineau pour expliquer pourquoi il ne se ferait pas vacciner. Il est contre les vaccins. Moi, écoutez, là, il dit qu'il a beau être guéri, là, lui, il ne se ferait pas vacciner. Il dit qu'un corps humain en bonne santé comme le sien peut combattre cette maladie-là ou ce virus-là. Il dit que s'il est contre les vaccins, c'est que depuis le début des temps, le corps est une machine qui est capable de combattre les virus. Puis bon, il y a toute une explication, puis il croit toutes sortes d'affaires. Puis je ne suis pas nécessairement en désaccord ou en accord avec lui. Là, regardez, c'est un vegan, là, Georges Larac, là, juste pour vous donner une idée. Mais je l'ai défendu hier à ses réseaux sociaux parce qu'il s'est beaucoup fait attaquer. Puis, moi, je pense qu'il a droit à son opinion. Premièrement, lui, qui ne veuille pas le vaccin, c'est un peu normal. Là. Il les a développés tout seul, les anticorps. Là. Il n'a pas eu besoin d'attendre après le vaccin. Là. Il les a déjà. Puis là, vous allez me dire, oui, mais ça peut muter. Ben oui, ça peut muter. Mais quand ça va muter, le vaccin actuel ne sera plus bon. Ça va être comme la grippe. Quand le vaccin... Quand la grippe a muté, mais notre vaccin n'est pas bon, puis il y a des années qu'on le pogne pareil, même si on est vacciné. Ça va être pareil avec la COVID-19. Là. Donc, sur ce côté-là, je pense qu'on peut juste le défendre. Mais plus important que ça, est-ce que on a encore le droit d'avoir ce débat-là? Puis ça revient un peu au débat avec Donald Trump. Là. C'est rendu que dès que tu ne penses pas comme une certaine bien-pensance, il faudrait que tu te taises. Puis j'ai bien de la misère avec ça. Puis présentement, on en a beaucoup des donneurs de leçons qui se pensent supérieurs aux autres et qui traitent de tous les noms ceux et celles qui pensent différemment. Puis peut-être qu'effectivement, puis c'est vrai, là, il y a plein de vaccins qui ont été faits dans l'histoire de l'humanité qui ont été extraordinaires puis qui ont permis d'enrayer un paquet de pandémies. Puis on serait peut-être même plus sur Terre, les êtres humains, ou en tout cas, on serait peut-être bien diminué. La population mondiale serait beaucoup moins importante. Mais il y a aussi eu des vaccins qui ont eu des effets secondaires. Puis là, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, mais juste que vous sachiez qu'il y a des gens qui ont des réserves envers certains vaccins. Puis je trouve ça correct. Puis il n'y a pas de consensus scientifique sur d'autres vaccins aussi. Et je trouve que la censure actuelle à l'endroit notamment de Georges Larac, mais on l'a entendu aussi quand on a reçu Lucie Laurier il y a quelques semaines ici même à cette antenne. Je trouve que ces censeurs-là sont plus dangereux que les gens qui sont contre les vaccins. C'est mon humble opinion. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous lire pendant la pause.